Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Et de 20e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, il n'y a pas de trêve. Nouvelles actions organisées par les syndicats ce matin. Le coût de la grève à la SNCF, c'est 400 millions d'euros pour l'instant, selon le patron Jean-Pierre Farandou, qui assure qu'il y aura plus de trains le week-end prochain que le week-end dernier. Détail sur les TGV et les Ouigo dans l'après-midi. Coup de gueule de la présidente des usagers de transport en Auvergne-Rhône-Alpes, le manque de TER se fait durement ressentir. Pourquoi attendre le 7 janvier pour négocier? Et joyeux Noël tout de même. Nous suivrons le père François Bidot, curé vendéen, très occupé en ce moment évidemment. La secrétaire de la paroisse en témoigne.
Il a beaucoup de travail, voilà, je confirme, je le vois pas beaucoup.
Et les heures à venir seront des moments de partage, mais les associations d'aide aux plus pauvres sont inquiètes. La baisse des dons constatée l'année dernière se confirme. En cause, la réforme de l'ISF qui incite moins les personnes les plus riches à donner aux associations. Et à la veille de Noël, une image du Christ fait l'actualité. Le Christ moqué du peintre italien Cimabue, vendu récemment 24 millions. Rebondissement, le ministère de la Culture refuse que le tableau quitte la France. Alors, quelle est la suite et en quoi cette œuvre est-elle importante? Les réponses de notre invité, l'historien de l'art Didier Rickner. Les fêtes, donc, après une année semée d'embûches, ce sera le message de la reine d'Angleterre. Alors que son mari vient d'être hospitalisé et que son fils Andrew est rattrapé par l'affaire Epstein de scandale sexuel. Fin d'année, perspective sombre en Côte d'Ivoire, à 8 mois de la présidentielle. L'opposant Guillaume Soro ne peut pas entrer dans son pays. Que faire de l'eau contaminée à la centrale de Fukushima? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
8 ans après le tsunami, une solution semble privilégiée.
Tokyo semble écarter l'hypothèse d'un stockage durable, 1 million de mètres cubes d'eau contaminée et envisager l'option d'un rejet dans l'environnement.
Les détails avec vous tout à l'heure à 13h30, ce sera la Terre au carré. Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Une question aujourd'hui.
Oui, comment les jeunes générations s'emparent-elles de l'écologie sur les réseaux sociaux? Pour y répondre, je reçois le youtubeur Max Bird et l'instagrammeuse Roxane Nonc. Vos questions, vos réactions dès maintenant sur franceinter.fr et au 01 45 24 7000.
Dès maintenant, donc tout de suite pour intervenir au standard, l'émission ce sera à 13h30. Avant cela, bien sûr, nous préparerons le réveillon. Depuis ce matin, Mathilde Dehimi suite Antoine et Arthur. Ils vivent à Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans, et là, ils préparent l'apéro des gougères.
Une fois que c'est mélangé bien le beurre à neuf, on met des œufs un par un et on mélange très vite.
Voilà, et un peu, avec un peu de fromage, c'est encore meilleur. Le 13h, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter.
Si vous aviez encore un doute, la réponse est non. Il n'y a pas de trêve pour les fêtes dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement ne négociera pas avant le 7 janvier, calendrier donné hier. Et la CGT Cheminots, Sudrail et l'UNSA multiplient les actions pour entretenir le bras zéro. Pas des actions massives, mais tous les jours. Manifestation Gare de Lyon à Paris ce matin. Ou encore, Manuel Ruffez, une centaine d'agents RATP au siège de la SNCF en soutien aux cheminots à Saint-Denis.
Ils sont là, ils le répètent en boucle, parce qu'ils l'avaient prédit, malgré les fêtes, pas de trêve, la grève se poursuit.
J'avais dit une chose, qu'on allait manger la bûche de Noël avec les collègues, que le mouvement y tiendrait, et il tient très fort au niveau de la RATP.
Alors les voilà, ces grévistes de la RATP, symboliquement devant le siège de la SNCF à Saint-Denis, en soutien à leurs collègues cheminots et à l'appel essentiellement du syndicat UNSA. Parmi eux, de jeunes conducteurs comme Fat Belfki, qui se disent inquiets pour leur avenir.
On connaît tout ce qu'on va perdre, malheureusement tout ce qu'on va gagner, on n'en a aucune idée. Donc là on part vraiment dans une mutation vers un système à points, avec une totale incertitude et une peur grandissante chez tous les agents.
En Assemblée Générale, ils ont déjà reconduit le mouvement jusqu'au 26 jeudi dans 2 jours, d'autant que le calendrier de négociation proposé hier n'a pas apaisé les tensions. Laurent Djebali, secrétaire général de l'UNSA RATP.
De mettre une date aussi éloignée, notamment le 9, et aujourd'hui on apprend le 7, ils se moquent des grévistes. Pour moi, je prends ça comme une provocation. Parce que si on veut répondre vraiment à la problématique, notamment au niveau des transports sur Paris, je pense qu'il faut engager vite le processus de discussion et répondre au niveau aux exigences des salariés.
Et pour ces grévistes, habitués à travailler les jours fériés, il y a au moins un point positif à cette grève. Ce soir, eux seront en famille.
Et les actions de ce type vont se multiplier dans les jours à venir. Les deux syndicats CGT et Sudrail prévoient un temps fort samedi. Sur les régimes spéciaux SNCF et RATP, des négociations, vous le savez, se sont tenues en interne sur le calcul des pensions et les transitions. À la SNCF, tout est désormais sur la table, plus rien à négocier, dit le patron dans un entretien au Monde. Jean-Pierre Farandou assure que le nouveau calcul donnera Un résultat très proche de l'ancien, même un peu plus favorable pour certains cheminots. L'âge du départ à la retraite sera remonté très progressivement, promet-il encore. Et Jean-Pierre Farandou rappelle que par ailleurs, au 1er janvier, les recrutements à la SNCF ne se feront plus au statut de cheminot. Pour les usagers, le service le week-end prochain, celui du chassé-croisé entre vacanciers, sera amélioré par rapport au week-end dernier, assure le président de la SNCF. La société doit donner le programme pour les TGV et les Ouigo le week-end prochain. Dans la journée. Et puis Jean-Pierre Farandou donne encore ce chiffre, 400 millions de pertes pour la SNCF depuis le début de la grève. Il n'y a donc pas de trêve et encore des trains manquants en ce 20e jour de mobilisation. Seulement 40% des TGV et des TER circulent, 20% seulement des intercités et transiliens. Et en région parisienne, une partie des trains de banlieue s'arrêtera complètement entre cet après-midi et demain après-midi. Les franciliens ont du mal à se déplacer, ils ne sont pas les seuls, loin de là. Anne-Marie Guémard est la présidente de la Fédération des usagers de transport en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour Noël, elle demande des trains et des négociations.
Chez nous, ce ne sont pas 4 TER sur 10 qui fonctionnent, parce que la plupart, ce sont des cars. Et des cars, ça n'a pas la même capacité qu'un train, ça n'a pas la même vitesse. En fait, nous avons fait le calcul, il y a un train sur 10 qui circule. Et une chose que nous ne comprenons vraiment pas, c'est pourquoi il n'y a pas de négociation maintenant. Pourquoi on attend le 7 janvier pour les premières réunions? Mais pourquoi faut-il attendre tout ce temps-là? C'est la trêve? Mais nous demandions une trêve de la grève, mais pas une trêve des négociations.
Un propos tenu chez nos confrères de France Info, comment tenir la grève sur la distance? Un chiffre interpelle. Le nombre d'arrêts maladie explose à la RATP depuis le début de la grève. Selon la direction, ils ont triplé la première semaine chez les conducteurs, plus que quadruplé la deuxième semaine de grève. Est-ce le stress dû au contexte social? Est-ce l'impossibilité de se rendre au travail? Ou une façon de tenir la distance? La direction de la RATP ne fait pas de commentaires. Jean-Luc Mélenchon était ce matin l'invité de France Inter. Il est opposé à cette réforme des retraites. Il donne deux arguments. On va examiner en détail l'un des deux. Écoutez d'abord.
Vous allez savoir tous les mois combien vous payez vos points, mais vous ne saurez jamais combien ils vous seront donnés quand vous serez à la retraite. Vous n'avez qu'un seul espoir, c'est qu'un maximum de gens de votre génération meurent, parce que ça laissera une plus belle part à se partager, parce que c'est comme ça que marche le système par points. Tout ça est quand même fondamentalement, intrinsèquement mauvais.
Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Alors avec le système par points, dit Jean-Luc Mélenchon, on va cotiser, payer des points chaque mois à un certain montant, mais on ne sait pas à quel montant ils seront une fois qu'on sera à la retraite. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon dit vrai?
Alors, quelle sera la valeur du point acheté, par exemple, en 2022 pour les plus jeunes d'entre nous, au moment où ces salariés partiront à la retraite? Eh bien, la réponse est simple. Le gouvernement propose que cette valeur ne puisse pas baisser. Alors, on peut ne pas croire le gouvernement, mais le gouvernement propose également que la valeur du point évolue dans le même temps, au même rythme que les salaires en France. La valeur du point sera donc arrimée à l'évolution du salaire moyen, soit près de 2% en France. Les années passées, un point acheté en 2022 continuera donc de prendre de la valeur, de se bonifier en quelque sorte chaque année. Donc, sauf à considérer un cataclysme économique, la lecture de Jean-Luc Mélenchon est sur ce point pour le moins pessimiste. En revanche, la valeur du point est également liée à l'âge d'équilibre, à cette décote de 5% chaque année avant d'atteindre une retraite à taux plein. Donc, si cet âge d'équilibre et âge pivot, que l'on appelait auparavant âge pivot, est conçu pour évoluer en fonction des générations et de leur espérance de vie, comme l'indique le rapport de Delevoye, eh bien, si cet âge pivot est décalé progressivement d'année en année de 64 à 65 ans et ainsi de suite, eh bien il est vrai qu'à ce moment-là, la valeur du point sera elle aussi rabotée de 5% par année avant d'atteindre ce fameux taux plein. La valeur du point est donc liée à l'âge d'équilibre qui sera appliqué au moment de faire liquider vos droits à la retraite. C'est tout l'enjeu de la gouvernance du futur système de retraite qui fixera à l'avenir cet âge d'équilibre. Gouvernance que les partenaires sociaux veulent avoir entre les mains.
Merci Laurent Kramer. Autre éclairage sur cette grève qui en est donc au 20e jour et cette mobilisation. Comment marchent les caisses de grève? C'est à voir sur franceinter.fr. La période de Noël est habituellement celle où les appels à la générosité se multiplient. Et bien cette année, les associations qui viennent en aide aux plus pauvres expriment de plus en plus fortement leurs préoccupations. Hier, le président des Restos du Cœur était avec nous en direct. Il lui manque 3 à 4 millions d'euros en cette fin d'année par rapport au budget prévisionnel. Et aujourd'hui, la FNARS, Fédération des acteurs de solidarité, qui regroupe une série d'associations, dit à son tour sa très forte inquiétude. Son directeur est Florent Guéguin. D'abord, il donne le manque à gagner l'année dernière.
C'est environ 150 millions d'euros en moins reçus les associations et les fondations en 2018. Alors, notamment liée à la suppression de l'impôt sur la fortune, qui a fait qu'un certain nombre de ménages très aisés ont été moins intéressés, je dirais, à donner aux associations. Et nous craignons effectivement que cette tendance se confirme en 2019. Ce serait très dangereux pour les associations et pour les personnes les plus démunies, puisque le contexte social a plutôt tendance à s'aggraver, les besoins sont de plus en plus importants et les ressources des associations diminuent. Diminution des dons, mais aussi diminution d'un certain nombre d'aides publiques. Je pense notamment à la disparition des contrats aidés qui étaient très utilisés par des associations comme les Restos du Cœur. Si d'un côté on a moins de moyens et si la pauvreté augmente, à un moment donné on va vers une crise très très grave.
Alors comment corriger cet effet pervers de la réforme de l'ISF? Eh bien il n'y a pas de réponse du côté de La République En Marche pour l'instant. Voilà pour cet appel lancé le 24 décembre. Dans quelques heures, ce seront les messes de minuit pour tous ceux pour qui Noël reste une fête religieuse, messes de minuit qui n'ont plus tellement lieu à minuit. Il y a entre 14 et 15 000 prêtres en activité en France et cette période est évidemment très dense pour eux. Alors nous en avons suivi un, il est curé de la paroisse Saint-Hilaire de Fontenay en Vendée. Il faut un peu de conditions physiques pour le suivre. Reportage Victoria Coussa, France Bleu, Loire-Océan.
Croix autour du cou et surtout caouet sur le dos. L'abbé François Bideau, dans sa course folle un peu partout à Fontenay, rend visite à des fidèles très malades comme Monique, 89 ans.
Doucement.
Un café, puis retour à la paroisse où Claudie, sa secrétaire, le voit courir.
Il a beaucoup de travail, voilà, je confirme, je le vois pas beaucoup.
Car il y a eu les fêtes dans les écoles catholiques, le choix des chants, les répétitions des chorales, quelques vins chauds aussi au marché de Noël où l'abbé s'est resté raisonnable.
On apprend à gérer, c'est un petit peu par-ci par-là, il faut savoir picorer ici ou là.
On reste concentré, notamment pour trouver les bons mots à prononcer lors de l'homélie. Le prêtre évoquera les tensions autour de la réforme des retraites.
Je ne suis pas sûr que je vais la citer en tant que telle. En tout cas, on aura une petite pensée pour tous les franciliens qui auront réussi à rejoindre leur famille vendéenne.
Et le challenge pour l'homme d'église, c'est d'être à la hauteur le soir de Noël.
Il y a une petite montée d'adrénaline qui aide aussi à une certaine efficacité. On sent bien que la fatigue peut gagner. Il y a forcément un peu de stress. Je serais heureux de pouvoir prendre quelques jours pour souffler entre le 29 et le 2 janvier.
Et des vacances bien mérité.
Voilà pour les vacances du père Bideau et pour l'instant le travail en ce qui le concerne. Noël après le passage de la tempête Fabien pour une partie des Français. Trois départements restent en vigilance orange. La Charente-Maritime risque d'inondation. Haute-Savoie et Savoie risque d'avalanche. Et en Corse, l'aéroport d'Ajaccio demeure fermé. Nous en venons à ce Noël côté profane et nous avons décidé cette année de suivre une famille. Ils habitent Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans. Là, c'est le moment où on prépare l'apéritif du soir. Reportage Mathilde Dehimy, où l'on constate que les enfants préfèrent les gougères aux rillettes de maquereau.
Un tabouret, un tablier, un saladier.
Des gougères.
Arthur, 5 ans, est prêt pour la recette.
Une fois que c'est mélangé bien le beurre à neuf, on met des œufs un par un et on mélange très vite.
Une pincée de sel.
On va remettre du sel.
Puis vient l'exercice périlleux de la farine avec Antoine, 2 ans et demi.
C'est moi, la farine.
Prends ta main gauche, prends ta bonne main, Antoine.
Et 5 œufs, enfin presque. Antoine, il y a combien de œufs, d'œufs?
3, 1, 3. 4 et 9, c'est pour les poules.
Les œufs, c'est pour les poules, oui.
Pas oui.
Ajoutez ce qui donne du goût aux gougères.
Les gruyères.
Tu mets du gruyère. Quand soudain, Antoine a renversé la cuillère pleine de gruyère sur toute la famille.
Ça fait une bêtise ?
Non,
Antoine, mange pas le gruyère qui est par terre. Le plus important est surtout de laisser une part au Père Noël pour tout ce qu'a confectionné Arthur.
Bah, on va lui laisser une part de pain d'épices. Moi, je fais la rillette de maquereau avec maman.
Est-ce que tu l'as goûté, la rillette de maquereau ?
Non.
Est-ce que tu as envie de la goûter ?
Non.
Arthur prend 2 cuillères.
Je vais faire des petits tas.
25 minutes de cuisson et les gougères sont prêtes. Arthur et Antoine vont avoir du mal à les regarder sans les manger jusqu'à ce soir.
Elles ont l'air bonnes. J'ai envie de manger toutes les gougères, là, tout de suite.
Voilà pour ce reportage de Mathilde Dehimy au pied du sapin chez les enfants d'Orléans. Il y aura peut-être des jeux vidéo, quoi qu'ils soient un peu petits. En tout cas, à propos de jeux vidéo, franceinter.fr vous propose un florilège de la décennie de 2010 à 2019. 10 jeux vidéo qui ont fait de ce média un art. Rien que ça, c'est à lire sur notre site et c'est signé Olivier Bénis.
France Inter, le journal de 13h Bruno Duvic.
Et voilà la bonne nouvelle de fin d'année du côté de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le nombre de fumeurs, on parle des hommes, diminue dans le monde. Et pour l'OMS, Daniel Messager, c'est un tournant.
Oui, on parle bien des hommes, effectivement, puisque chez les femmes, la tendance est déjà observée depuis plusieurs années. Alors, en près de 20 ans, on constate pas moins de 60 millions de fumeurs en moins. Ça paraît énorme, dit comme ça. Mais il faut mettre en parallèle les 1,3 milliard de fumeurs encore dans le monde. Mais bon, on avance. La hausse du tabagisme, qui était régulière, semble donc stoppée. Pas par miracle, évidemment, mais bien parce que les pays mettent progressivement en place des politiques de diminution ou d'arrêt du tabac. Hausse des prix, on sait que taper au porte-monnaie, c'est ce qui fonctionne le mieux. En France, le paquet peut atteindre jusqu'à 9,30 € aujourd'hui, mais aussi accompagnement avec des aides au sevrage tabagique. Même dans les pays où les ventes sont plus libres, on ne peut plus faire n'importe quoi, comme en Chine, où l'industrie est plus encadrée. Il demeure que cette baisse n'est pas effective partout dans le monde, et c'est actuellement en Asie du Sud-Est que le nombre de fumeurs est le plus important. Mais là aussi, ça devrait diminuer, assure l'Organisation Mondiale de la Santé.
Et donc, Daniel ?
On parle bien du tabac,
oui,
et pas de vapotage, car ce sont les bonnes vieilles cigarettes et leurs dizaines de substances qui dégagent des combustions cancérogènes. Le vapotage, lui, est forcément en hausse, puisque c'est en partie ce qui a provoqué la baisse de la consommation de tabac, sans les mêmes conséquences sur la santé, rappelons-le. Sans conséquence du tout, d'ailleurs. Mais l'histoire n'est pas tranchée et il faudra sans doute du temps pour l'affirmer. En tout cas, sans commune mesure avec la mort d'un consommateur de tabac sur deux. Et puisqu'on fait le point sur les cigarettes, vous allez me demander, je suis sûre, où on en est des cigarettes électroniques.
Dites-moi, oui, c'est un autre sujet de conversation régulière.
Exactement. Eh bien, je peux vous dire que le lien a été formellement établi par une étude publiée il y a quelques jours, c'était vendredi, par des chercheurs des centres américains de CDC, vous savez, c'est le centre de contrôle des maladies. Les 54 personnes décédées, les 2500 qui avaient développé des maladies pulmonaires, la plupart avaient bien inhalé de l'acétate de vitamine E. C'est un produit extrêmement dangereux à inhaler, pas du tout fait pour cet usage, illicite dans ce cas, et qui contient notamment du THC, c'est la substance active du cannabis. En tout cas, aucun phénomène de ce type, Bruno, n'a encore été signalé en France à ce jour, puisque ça demeure illicite.
Merci Daniel Messager. Des situations choquantes et inacceptables, voilà les mots du maire de Grasse après les affrontements entre des jeunes du quartier de la Blaquière et des forces de l'ordre la nuit dernière. Affrontements qui ont éclaté après la destruction de caméras de vidéosurveillance. Si ces caméras ont été prises pour cible, c'est qu'elles doivent gêner, estime le maire de Grasse. Un des temps forts de l'année à venir, ce sera les Jeux Olympiques d'été au Japon, à Tokyo. Mais sur l'archipel, la flamme olympique, avant d'arriver à Tokyo, fera d'abord étape à Fukushima, lieu de la catastrophe nucléaire provoquée par le raz-de-marée en mars 2011. Le démantèlement du site est un enjeu écologique et un enjeu d'image majeur pour le Japon. Il reste de l'eau contaminée stockée dans l'enceinte. Alors que faire de cette eau? La réponse sera donnée l'année prochaine. Mais selon l'agence France Presse, ce matin, la solution privilégiée, Sandy Dauphin, c'est de rejeter cette eau dans la mer ou dans l'air.
Oui, 1 million de mètres cubes d'eau contaminée est stockée sur le site de Fukushima. 1000 cuves au total, dont une partie est encore très chargée en éléments radioactif. D'après l'AFP, les autorités japonaises envisagent désormais trois options. Soit rejeter l'eau après traitement petit à petit dans l'air par évaporation, soit dans l'océan, soit les deux. En France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, organisme public, estime que la dilution en mer est la meilleure solution. Thierry Charles, directeur général adjoint de l'IRSN.
La solution du rejet de ces eaux qui ont été traitées et dans lesquelles reste essentiellement du tritium, la solution techniquement la plus réaliste, c'est effectivement le rejet en mer, sous réserve que vous ayez bien défini auparavant les conditions de ce rejet, en termes de débit, en termes de concentration, en termes de durée. Fait une étude d'impact, cette eau va être fortement diluée par l'océan, et ensuite, les quantités qui pourraient être absorbées par les animaux marins vont être quand même très très limitées.
Une option qui fait bondir les associations comme la CRIRA, de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité créée au moment de Tchernobyl, son porte-parole Roland Desbordes.
Techniquement, économiquement, c'est le plus simple et c'est le moins cher. Je crois que tous les experts sont d'accord, sauf que c'est pas une option banale. Moi, ça me fait froid dans le dos. C'est revenir 40 ans en arrière par rapport à la prise de conscience que nous avons de protéger le milieu marin. Et là, on va exactement à l'envers.
Pour Tokyo, il est surtout urgent d'attendre l'après-Jeux Olympiques de 2020 pour donner sa décision finale sur un sujet aussi sensible.
Un nouvel épisode de la guerre en Syrie, dans la région d'Idleb, l'une une des rares pas encore reconquises par le régime de Damas. Les combats se multiplient et à nouveau des civils, 8 morts dont 5 enfants, des civils tués dans des bombardements russes en l'occurrence, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ça s'est passé à Jouba, s'il s'était réfugié dans une école ou à proximité. 2020 sera une année à haut risque en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle en octobre. L'opposant Guillaume Soro est d'ores et déjà candidat, mais il ne peut pas entrer dans son pays. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Vous revenez de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro s'est arrêté donc hier, il venait de Paris. Il s'est arrêté au Ghana. Il devait aller en Côte d'Ivoire. C'est de mauvais augure cette histoire pour l'année à venir, Bertrand.
Oui, à 10 mois de la présidentielle ivoirienne, les rivalités politiques prennent déjà une tournure inquiétante avec cette procédure qui vise l'ancien allié de l'actuel président Ouattara, devenu un adversaire farouche. Obligé de se réfugier au Ghana, Guillaume Soro fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour atteinte à la sécurité de l'État et détournement de fonds publics, plus de 2 millions d'euros. Simultanément, policiers et gendarmes ivoiriens ont pris d'assaut le siège du parti de Guillaume Soro dans le quartier chic de Cocody. Une quinzaine de personnes y ont été arrêtées, dont le député Alain Lobognon, l'un des proches de Soro. Un signal fort adressé par le pouvoir ivoirien à ses concurrents potentiels. Officiellement, l'actuel chef de l'État, âgé de 77 ans, n'est pas candidat à sa propre succession pour laisser la place, dit-il, à une génération nouvelle, sans toutefois exclure de se présenter pour un troisième mandat si les anciens présidents Henri Konan Bédié, 85 ans, et Laurent Gbagbo, 74 ans, étaient eux-mêmes candidats. En 2010, les affrontements qui avaient suivi le scrutin présidentiel entre partisans de Gbagbo et Ouattara avaient fait plus de 3000 morts. Samedi soir, lors de sa visite officielle à Abidjan, Emmanuel Macron a insisté sur l'essentiel travail de réconciliation dont la République de Côte d'Ivoire a tant besoin et qui est, selon lui, le chemin sur lequel elle avance.
Nettement moins grave que tout ce que l'on vient de décliner, mais tout de même, pour la famille royale britannique, 2019 fut une année semée d'embûches. C'est l'expression choisie par la reine pour son message de Noël qu'elle présentera demain. France Inter à Londres, Marina Daras.
2019 aura été, selon la reine, une année assez mouvementée. Il faut dire que les débats politiques engendrés par le Brexit ont fortement divisé son pays et mis la constitution à rude épreuve. Mais au-delà de la débâcle du Brexit, la famille royale a elle aussi dû faire face à quelques événements dont la reine se serait volontiers passée. En janvier dernier, le duc d'Édimbourg, son mari, était impliqué dans un accident de voiture alors qu'il conduisait près du domaine de Sandringham. Ils sont est sorti indemne, mais deux femmes ont dû être hospitalisées. Et malgré la naissance d'Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle, la presse à scandale britannique s'est emparée d'une soi-disant querelle entre Harry et son frère le prince William. Plus récemment, c'est son fils, le prince Andrew, qui a accepté de participer à une interview télévisée qui a tourné au fiasco au sujet de son amitié avec Jeffrey Epstein, condamné pour abus sexuels sur mineurs et mort en détention. Alors pour ne pas perdre pied, la monarque formulera un message d'espoir, comme à son habitude, en exhortant les Britanniques à surmonter leur division et en précisant que le chemin n'est jamais lisse, mais que de petits pas peuvent guérir ces divisions. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Et l'année s'achève en plus avec 4 nuits d'hospitalisation pour le prince Philippe, mesure de précaution selon le palais de Buckingham. Le prince qui a 98 ans est sorti ce matin à pied de l'hôpital Édouard VII. À quelques heures de Noël, une image du Christ est dans l'actualité. Le Christ moqué, représentation d'un des moments de la Passion. C'est un petit tableau du XIIIe siècle de la main d'un des maîtres de la pré-Renaissance italienne, Cimabue. On vous a déjà raconté l'histoire de ce tableau qui était chez une vieille dame, qui ne mesurait pas sa valeur. Et à l'occasion d'un déménagement, on l'a regardé de plus près. Bingo, il a été vendu aux enchères à Senlis fin octobre, 24 millions d'euros. Ce sont des collectionneurs chiliens vivant aux États-Unis qui l'ont acheté. Et le rebondissement du jour, c'est que la France s'oppose à ce que ce tableau quitte le territoire. Alors, quelle est la suite? Eh bien, on en parle avec l'invité de ce journal. Bonjour Didier Rickner.
Bonjour.
Fondateur de la Tribune de l'Art. Un mot d'abord, en quoi cette œuvre est-elle exceptionnelle?
Elle est exceptionnelle parce qu'il y a à peine une dizaine d'œuvres de Cimabue qui subsistent au monde et qu'il n'y en a évidemment pas sur le marché. C'est quelque chose de très rare. Donc, c'est un artiste en plus qui est très important. C'est le premier artiste important de la peinture occidentale à la fin du XIIIe siècle. Il succède en fait aux Byzantins, à la peinture byzantine, aux icônes, parce qu'il devient plus réaliste et qu'il apporte quelque chose de tout à fait nouveau.
Donc c'est important que cette œuvre reste en France, de votre point de vue?
Alors, le Louvre possède déjà un grand tableau de Chimabue. Donc oui, on en a déjà un. Mais c'est vrai qu'une œuvre si rare, c'est à mon avis important qu'elle reste au Louvre. Il y a, il faut le savoir, beaucoup de tableaux actuellement qui sont en vente, très importants. Celui-ci en fait partie. Et c'est une bonne chose plutôt qu'on essaye de l'acheter, je pense.
Et il y a une concurrence internationale entre musées, entre grandes institutions pour des œuvres comme celle-ci?
Tout à fait. La seule concurrence entre les musées, c'est sur les acquisitions. En fait, on parle beaucoup de concurrence entre les musées, mais c'est sur les acquisitions parce qu'il y a peu d'œuvres aussi importantes qui passent sur le marché. Et bien sûr, tous le veulent.
Alors, la France ne veut pas qu'il quitte le territoire. Il a été acheté récemment 24 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La France doit sortir les 24 millions d'euros et rembourser, entre guillemets, les collectionneurs?
Alors, en fait, d'après mes informations, les collectionneurs n'ont pas payé cela. C'est soumis au fait qu'ils aient un certificat d'exportation.
D'accord.
Donc, oui, il est normal que la France paye le prix. Sur ces trésors nationaux, la question est toujours du prix. Il faut que le prix payé par l'État français soit celui sur le marché international. Or là, on a le prix sur le marché international, puisque le Metropolitan Museum de New York était sur les rangs, cette collection américaine également. Et donc, le prix, c'est 24 millions d'euros.
Et c'est un prix qui est, honnête de votre point de vue? C'est un prix gonflé ou...
Non, c'est un prix qui est raisonnable, même si ça paraît évidemment pour tous les auditeurs, c'est évident, c'est énorme, 24 millions d'euros. Mais il faut savoir que le Louvre était prêt déjà à l'acheter, il n'avait pas suffisamment d'argent. Alors, le chiffre court de 15 millions d'euros dont il disposait. Et il faut savoir aussi que la propriétaire, qui était une très vieille dame, est décédée 2 jours après la vente. Je ne sais pas si c'est l'annonce du résultat qui l'a saisi. Mais toujours est-il qu'il y a, d'après la presse, ça je n'ai pas l'information, mais d'après Le Monde, par exemple, 9 millions d'euros de frais de succession à payer sur ces 24 millions d'euros. Il serait logique, finalement, que ça, sous forme de dation, c'est-à-dire que ça serait l'État qui abandonnerait ces 9 millions d'euros pour récupérer le tableau. 9 millions et 15 millions d'euros, ça ferait 24 millions d'euros.
Il y a beaucoup de tableaux, possiblement dans la nature, comme ça, à deux doigts d'être vendus dans des brocantes et qu'on retrouve comme ça et qu'on exhume et qu'on, dont on mesure la valeur.
Alors ça arrive souvent, mais alors il faut savoir qu'en France, il y a une jurisprudence tout à fait scandaleuse. Là, on a trouvé ce que c'était, le vendeur a pu le vendre à son prix, mais il arrive que des marchands, des brocanteurs ou des marchands identifient, même aux enchères, des tableaux très importants qui sont vendus comme rien. Et là, si ils le disent, eh bien, on leur pique leur découverte. Et ça empêche beaucoup de ces découvertes d'être révélées au grand public. Souvent, elles sortent en fraude de France parce qu'on risque de le piquer aux découvreurs.
Merci Didier Rickner d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et donc, si on veut voir une œuvre de Chimabue en France, il y en a au Louvre. À votre connaissance, il y en a ailleurs en France ou
Ah non, c'est le seul tableau de Chimabue en France.
En France.
Au Louvre,
donc c'est au Louvre. Merci beaucoup Didier Rickner. Et puis, puisqu'on parle de peinture, eh bien, c'est aujourd'hui que Pierre Soulages, le maître du noir, a 100 ans. Jean Lebrun lui consacre une semaine spéciale de la Marche de l'Histoire sur France Inter. Rendez-vous à 14h30 et une exposition Soulages se tient également au Louvre.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, nous allons retrouver un large ruban nuageux de l'Aquitaine aux Alpes du Nord en passant par le sud du Massif Central. Les précipitations associées seront très faibles. Prévoyez un ciel un peu plus chaotique près des frontières du Nord et du Nord-Est avec quelques averses et des rafales de vent proches de 60 km par heure. Partout ailleurs, vous profiterez d'assez belles éclaircies. L'ensoleillement sera même généreux autour du Golfe du Lion et de la région PACA à l'est de la Corse. Côté vigilance, le risque d'avalanche reste élevé entre la Haute-Savoie et la Savoie. Les températures sont douces, les maximales évolueront entre 11 et 19 degrés du nord au sud. On prévoit jusqu'à 21 degrés à Perpignan. Pour votre journée de Noël, prévoyez beaucoup de soleil des Pyrénées au Massif Central et de la région Rhône-Alpes à la Corse en passant par la région PACA. En revanche, la grisaille sera au menu de votre matinée dans les autres régions. Les éclaircies se développeront en cours d'après-midi, mais pas partout.